Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toutes les semaines l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on a un programme hyper sérieux et même un programme qui va faire grincer des dents certains d'entre vous puisqu'on va parler politique. Oui, non, mais enfin, partez pas, restez, attendez, restez. On va parler des questions tech qui s'immiscent dans la vie politique et de la manière dont elles sont parfois interprétées. Enfin, là, il y a quelques sujets qui ont fait l'actualité ces derniers temps. Et on va essayer de décortiquer ça pour vous faire comprendre, si ça n'est pas déjà le cas, comment les choses peuvent vraiment être préoccupantes parfois ou enthousiasmantes parfois, et puis comment elles ont été peut-être présentées de manière pas tout à fait exacte à certains moments. Comme je le disais, je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir de recevoir pour m'aider à décortiquer tout ça, Gaëlle Girardot. Comment ça va, Gaëlle ?
Bonjour Patrick, écoute, très bien, meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Ah, meilleurs vœux, c'est vrai, on est encore en janvier.
On a encore le droit.
C'est ça, tout à fait. Je sais que tu es sous la neige, c'est l'un des rares moments où Paris est sous la neige, n'est-ce pas ?
C'est ça, exactement. Bah, ça va commencer à poser plein de problèmes techniques hein, chez nous. On n'a pas l'habitude, mais c'est la même tous les ans. Donc, voilà,
heureusement qu'on fait ça par Internet et qu'on n'a pas besoin de se déplacer. Donc, tu vois, on n'a pas de soucis. D'autant plus que moi, comme je le disais avant de commencer l'émission, on est à moins 24 là, dans ma campagne finlandaise. Donc, enfin non, c'est pas vrai. Moins 24, c'était cette nuit. Là, ça va beaucoup mieux. C'est moins 15. Donc, c'est presque l'été, quoi. C'est la neige partout.
Viens au soleil chez nous, il fait moins 2.
Ouais. Mais tu sais quoi, parfois moins 2, c'est quand même. Ça, c'est un peu plus froid que moins 15. Enfin, ça sent un peu plus froid parce qu'il y a le vent, il y a l'humidité et tout. Moins 15, ça va. Moins 24, c'est un peu plus dur. Moins 10, c'est très bien. Enfin, très bien. Disons que c'est mieux que 0 et c'est moins bien que 10 ou 15 ou 26. Est-ce que je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont sur l'autre hémisphère ou dans les îles, tout ça, qui sont à 26 et qui m'ont envoyé des tweets en me disant « Oh, ici, c'est pas mal, tu devrais venir. » Mais bon, franchement, je commence à apprécier l'hiver aussi et c'est très, très beau. Hein. Moins 24, moins 20, c'est super beau, c'est tout dégagé, la neige est partout. Je poste des photos sur Twitter, Instagram, Facebook de temps en temps. J'ai des retours plutôt enchantés. Plutôt enchanté, mais peut-être pas au point de venir dans ces environnements non plus. Et d'ailleurs, je dois remercier ceux d'entre vous qui permettent, qui font en sorte que je puisse me payer le chauffage, parce que là, ça devient vraiment problématique sans. Donc, ceux qui participent au Patreon du Rendez-vous Tech, comme Thibaut Declerc, Thierry Quirk, Michael Demar, Christophe Fontaine et Laurent Cossio et tous les autres qui participent, qui financent l'émission et qui me permettent d'avoir à manger et de quoi me chauffer et de quoi me distraire et de quoi m'informer. Merci à vous tous, c'est vous qui faites fonctionner le Rendez-vous Tech. Donc un grand merci à vous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Et donc je disais, on va parler tech, on va pas parler que tech, hein. On a aussi un petit... une petite section nouvelle où on a pris des questions d'auditeurs patriotes. On a évidemment des sujets un petit peu plus rapides sur peut-être un Pixel 3 Lite qui arrivera, une nouvelle fonctionnalité de Facebook qui va faire rire les adolescents. Je crois que Gaël aura peut-être une idée de la manière dont ça va fonctionner, si ça va les attirer ou pas. Peut-être que la réponse sera non. Satya Nadella qui parle de Cortana, de Windows Phone, peut-être pas en bien, et plein d'autres choses. Mais on commence, comme je le disais, avec un petit peu de politique. Et donc, bon, pas vraiment de la politique, c'est un petit... je fais un petit peu du clickbait sur cet épisode. On parle pas vraiment de politique, mais on parle de tech et de politique, et notamment de cette histoire selon laquelle un hacker aurait réussi à accéder à l'adresse email d'Emmanuel Macron. Alors, vous avez peut-être vu différents titres et différentes manières de tourner les choses dans cette histoire. Et je crois qu'on a un petit peu l'impression que il y a des hackers qui ont réussi à lire les emails d'Emmanuel Macron, alors que ce n'est pas le cas, mais ça pose quand même d'autres problèmes au cœur de l'histoire. Alors, Je résume rapidement. En fait, Emmanuel Macron utilise visiblement deux adresses e-mail. Il a une adresse e-mail professionnelle, qui est l'adresse du président. Je ne sais pas, c'est peut-être président@elysee.fr ou un truc comme ça. Et il a une adresse e-mail personnelle qu'il utilise encore, qui est une adresse e-mail Gmail. Et cette adresse e-mail figurait parmi une collection d'informations privées qui ont été découvertes il y a peu, mais cette collection qui est assez immense, qui s'appelle Collection Number One, qui regroupe 700 millions d'adresses e-mail et de mots de passe et de plein de trucs, est en fait une collection qui est d'informations anciennes, donc c'est des hacks qui ont déjà quelques mois ou quelques années, donc c'est pas qu'il y a eu un nouveau hack, mais c'est ces informations qui ont été accumulées par différents hacks, qui ont été réunies par des hackers qui vendent ensuite ces collections d'informations. D'ailleurs, c'est amusant, le hacker qui a été contacté par un journaliste ou par un chercheur en sécurité qui a cette collection lui disait « Non mais ça c'est des vieux trucs, j'ai collection number 2, 3, 4 et qui sont bien plus récentes et tu peux les acheter pour 50 euros. » Donc c'est des collections de gens qui réunissent toutes ces informations. Et donc, parmi ces collections, il y avait, parmi cette collection number one qui a été un petit peu plus publique ces derniers temps, figurait l'adresse email du président, l'adresse email personnelle du président. Comme je le disais, il y a 700 millions d'adresses email, donc ça fait quand même un certain nombre. Et donc, c'est pas que le hacker a réussi à accéder et à lire les emails personnels du président, mais simplement qu'il connaît l'adresse email du président, donc qu'elle figurait dans la liste de toutes ces adresses email hackées, comme sans doute la plupart des vôtres aussi. Et donc, on a pu avoir l'impression que le mail personnel du président était compromis, ce qui n'est pas le cas. Ceci dit, il y a une réponse de l'Élysée qui a été « le mot de passe est changé régulièrement », on a une double authentification désormais sur cette adresse, sur cet email, faisant penser que du coup, le compte est sécurisé et qu'il est difficile d'y accéder. Alors, difficile évidemment, oui. Le problème, parce qu'il y en a quand même un, même si les titres sont peut-être un petit peu trompeurs, il y a quand même un problème qui est que Gmail, Google, stocke les données en clair et pas en chiffré. Il n'y a pas de chiffrement de bout en bout. C'est-à-dire que sur les serveurs de Google, ces données sont lisibles. Sur les serveurs de Google, bien sûr, il est difficile d'y accéder, mais on peut imaginer, dans un cas exceptionnel, que quelqu'un puisse avoir trouvé un moyen d'y accéder ou alors qu'un État demande l'accès aux données en question et Google pourrait les donner. Alors, c'est improbable et généralement, quand on parle d'un quidam, on va dire « oui, bon, on ne va pas non plus changer la manière dont fonctionne Internet pour le cas où Dieu sait qui se verrait espionné par un gouvernement, encore que peut-être qu'il faudrait le faire, mais la question peut être débattue. Mais dans le cas du président d'un pays, et d'un pays aussi important en particulier que la France, ce genre de choses peut effectivement poser problème, parce que les échanges d'Emmanuel Macron avec quelqu'un, qui que ce soit, ne sont pas sous le contrôle de l'État. Et dans ce cas, ça ne veut pas dire qu'il faut changer Gmail, encore que ça serait une discussion plus vaste, comme je l'ai dit, mais il me semble un petit peu, pas très sérieux de la part d'une personne placée à un si haut niveau de l'État d'utiliser un serveur, même pour ses données personnelles. Admettons qu'il ne discute pas de questions de questions gouvernementales sur son email personnel, il y a toujours des choses qu'on peut voir, des choses qu'on peut en tirer, des informations qu'on peut en tirer. On n'est jamais 100% rigoureux et c'est là qu'il y a un vrai problème avec cette utilisation de compte mail personnel pour le président. En fonction, en exercice, bien sûr, à un moment peut-être qu'il le faisait avant ou qu'il le fera après, mais au moment où il est en fonction, ça semble être un petit peu plus risqué et peut-être on pourrait arguer du fait que c'est un petit peu trop risqué, même si les intentions seraient de ne pas discuter de questions professionnelles, entre guillemets. On ne parle pas boulot sur son email personnel. Donc voilà en gros la manière dont on peut... La double authentification, bien sûr, c'est très bien, mais, et même le changer le mot de passe, ok, mais ce n'est pas ça vraiment le cœur du souci dans cette question. Gaëlle, est-ce que c'est un truc qui te préoccupe ou est-ce que moi je suis un petit peu trop, comment dire, tech geek dans cette histoire pour... puisque ça me pose quand même une petite question.
Non, je pense que tu n'es pas le seul, sinon il n'y aurait pas un emballement autour de cette question. Et effectivement, on imagine que, comme tu le dis, il reste sur des questions perso sur son email Gmail. Après tout, il est humain, il a le droit aussi d'avoir une vie perso, même en étant président. Mais comme tu le dis, on n'est jamais 100% rigoureux. Et ça laisse présumer de qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un de malfaisant arrive sur ces données et peut récupérer toutes ces informations. Et oui, ça pose des problèmes de sécurité qui sont pas les mêmes pour tout le monde, mais ça l'est encore plus pour un président ou tout membre haut placé dans le gouvernement. Hein, parce que là, aujourd'hui, c'est le président dont on parle, mais on peut imaginer que c'est le cas pour peut-être les autres ministres, d'autres présidents dans d'autres pays. Enfin, on imagine que cette situation est réelle partout. Et que pour l'instant, les hauts services d'État n'ont pas encore pris la mesure de ce que ça pouvait impliquer, puisqu'ils n'ont pas interdit au président d'utiliser son email perso. Alors qu'effectivement, ça pourrait peut-être même être une question. Quand on devient président, est-ce qu'on doit continuer à utiliser ses emails perso? Je crois qu'on t'enlève normalement ton téléphone perso.
Oui, il utilise un téléphone qui est plus sécurisé. Mais si c'est pour envoyer des données sur les serveurs de Google, Dieu sait où.
Voilà. Donc en fait, effectivement, l'email perso devrait peut-être tomber dans la même problématique qu'un téléphone perso.
Et il y a un problème d'archivage aussi. Je ne sais pas si c'est le cas en France. J'imagine que oui, on archive toutes les communications. Enfin, c'est le cas en tout cas aux États-Unis. Et dans le cas des emails perso, alors oui, c'est son email perso, je ne sais pas quoi. Mais si, à vrai dire, c'est une question qui s'était posée avec Hillary Clinton à l'époque où elle était secrétaire d'État. Donc, c'est l'équivalent du ministre de l'Intérieur. Et elle avait utilisé un email, un serveur perso, c'était pas Gmail, c'était un serveur qui était hébergé chez elle, mais pour parler de choses qui étaient des affaires d'État, et ça posait un problème d'archivage aussi, parce que normalement, il faut archiver toutes ces communications pour archivage, pour utilisation plus tard, etc. Et là, c'est pas possible ou aussi facile dans ce cas-là. Encore une fois, c'est son email perso, donc il a le droit d'avoir une vie perso, sans doute, mais ça peut poser cette question aussi. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'utilise pas ça pour des questions de gouvernement, enfin des questions gouvernementales. J'imagine que non quand même, mais bon, bref.
Oui, voilà la même question. En plus, si c'est son email perso, c'est un compte Gmail, donc ça veut dire que c'est son Drive, donc son Google Drive, donc potentiellement des documents qui sont stockés là-dessus, des photos qui sont stockées là-dessus. Il y a plein, parce que c'est le même compte. Hein, donc effectivement, son compte, il y a toutes ses données, son comportement sur son navigateur, qu'est-ce qu'il a fait comme recherche. Il y a beaucoup de données. Hein. Non, mais c'est vrai.
J'avais pas pensé à ça. Mais du coup, ça pose la question de... est-ce que le président d'un pays comme la France devrait être interdit de Google ? Du coup, il y a quelqu'un chez Google qui a accès à tout ça, quoi, qui a accès à son profil Google. J'avais même pas pensé à ça, mais t'as raison. Il y a quelqu'un qui a accès à son profil Google quelque part chez Google, qui n'a pas le droit de le regarder, machin. Mais encore une fois, on n'est pas à l'abri de quelqu'un de malveillant.
Un hacker, cas d'un hacker, effectivement, qui peut tomber sur cette information. Donc,
Ou même quelqu'un, tu vois, hacker à la limite, peut-être pas, mais quelqu'un qui infiltre, on est sûr qu'il y a des services de sécurité de différents pays, qui infiltre ces grandes sociétés. Et puis, il y a le technicien classe super plus qui a accès aux données des personnes qui veulent. Est-ce que ces personnes-là ont des comptes un petit peu spéciaux chez Google parce que Google, justement, veut se protéger de ce genre? Enfin bref, ça pose plein de questions auxquelles j'avais pas pensé, ouais. Et du coup, je me demande, bon là, c'est Emmanuel Macron, je suis sûr qu'il y en a d'autres, peut-être qu'ils étaient moins technophiles, donc ils utilisaient moins ce genre d'outils, mais est-ce qu'ils devraient pas utiliser ce genre d'outils et du coup, pas utiliser non plus Facebook et tout ça, mais du coup, ils seraient déconnectés de la manière dont les Français utilisent Internet? Ça pourrait faire un épisode entier là-dessus. Tout à coup, tu as ouvert mes yeux à quelque chose de... Bon, donc, on a posé les questions, on n'a pas forcément les réponses, mais ça amène des pistes de réflexion. Et on va lâchement parler d'un autre sujet. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de la réforme du droit d'auteur qui est en cours de passage dans l'Union européenne avec les fameux articles 11 et 13 qui étaient très controversés. Je ne vais pas vous refaire tout le résumé, mais en gros, c'est une taxe sur les liens et une obligation de filtrage général pour à peu près tous les sites du monde. Et ces deux articles étaient hyper controversés parce qu'ils étaient beaucoup trop contraignants. Eh bien, il se trouve que 11 des États membres de l'Union ont voté contre la proposition, ce qui était inattendu. C'était un vote qui a eu lieu la semaine dernière. C'était vraiment inattendu. Et ça veut dire qu'il va falloir revoir cette proposition. Et donc, la réforme telle qu'elle avait été écrite et telle qu'elle avait été proposée, avec tous les problèmes qu'elle posait, et a priori, va devoir être travaillée. Alors, on ne sait pas comment. Ça va sans doute décaler un petit peu sa mise en application. Mais il y a deux choses, c'est donc deux choses à en tirer. C'est que d'une part, les choses n'étaient pas aussi établies qu'on l'aurait pensé avec cette proposition, avec cette nouvelle loi. Et surtout, c'est ce que mentionne Julia Reda, donc qui est une députée européenne particulièrement active dans le domaine de l'information, de l'informatique et de la technologie. Et elle dit « la pression publique qui a été mise sur les représentants de ces pays a fonctionné ». Et la France n'est pas dans les pays qui a voté contre, parce qu'on sait qu'on a une industrie culturelle particulièrement importante en France et que l'industrie culturelle voit ces nouvelles lois comme un moyen de se protéger. C'est pour ça sans doute que la France n'a pas voté contre et même qu'elle pousse pour avoir ce type de loi. Mais d'autres pays ont été sensibles à la pression de leurs citoyens. Et c'est plutôt une bonne chose pour moi, c'est positif parce que ça donne un petit peu d'espoir sur le fait que quand on n'est pas content et qu'on s'exprime, bah, ça a un effet. Et ça reste pas juste lettre morte. Entre parenthèses, je mets dans la même news le fait que la CNIL a infligé une énorme amende de 50 millions d'euros à Google pour avoir violé le RGPD, le Règlement Général de la Protection des Données, qui est en vigueur depuis un an ou deux maintenant, peut-être un an. Et c'est une amende qu'elle a le droit d'infliger maintenant grâce au RGPD. Et en gros, je ne vous fais pas les détails, mais en gros, la raison pour laquelle la CNIL a infligé cette amende, c'est parce que les informations que vous donne Google sur la manière dont ils utilisent vos données ne sont pas claires. En fait, on ne comprend pas bien. Et l'une des choses que demande le RGPD, c'est que ces informations soient claires, que les consentements soient clairs et que les données qu'on vous fournit, quand vous les demandez, les données qu'on a sur vous, eh bien, elles soient fournies de manière claire. Et bien, tout ça, ce n'est pas clair dans la manière dont le fait Google. Et donc, ils écopent d'une amende. Donc, voilà ces deux sujets un petit peu loi européenne et conséquences. Je ne sais pas si ça t'inspire quelque chose. C'était plus une exposition des faits, mais...
Si, non, ça montre en tout cas que l'Europe a décidé d'attaquer de toutes parts les géants américains, que ce soit par le droit d'auteur ou par le RGPD, et qu'on voit que qu'il y a un vrai problème et qu'ils savent pas encore comment y faire face, et qu'en attaquant, ils essayent de trouver des solutions. Après, est-ce que c'est les bonnes solutions? Ça, je saurais pas dire. Moi, la question en tout cas que ça me fait poser, c'est vraiment de se dire, c'est bien d'attaquer et de dire il faut trouver des solutions et il faut faire quelque chose. Donc ça, c'est plutôt très positif. En revanche, est-ce que c'est vraiment la façon de trouver des bonnes solutions par la suite, en tout cas pour le long terme? J'en suis moins sûre, parce que je me dis la vraie problématique, c'est qu'on n'a pas d'acteurs européens aujourd'hui face aux géants américains. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui, hein, parce qu'on le voit sur les enjeux de données, les enjeux que ça peut créer de démocratie, de problématiques d'accessibilité à l'information. On voit que c'est hyper important. Ces géants ont une influence folle. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'Europe par rapport à ça pour avoir des acteurs qui permettent de contrebalancer ça?
C'est un petit peu les deux axes, c'est sûr. Là où moi je suis un petit peu circonspect, c'est que ça fait maintenant 20 ans qu'on se dit « Ah, il nous faut des géants européens ». Et je crains qu'on puisse attendre jusqu'à... si on en développe, c'est très bien. Mais si on attend encore 20, 30 ans et qu'il n'y en a toujours pas, est-ce qu'on va laisser les mains libres aux géants extra-européens, pour ne pas dire forcément américains ou même californiens
oui.
Bon, ce n'est pas vrai, il y a Microsoft aussi, mais qui gèrent toutes nos données et qui sont tellement importantes. Moi, je crois que les deux ne sont pas forcément mutuellement exclusifs. Et que, alors, il y a un argument qui dit, bon, on repart sur des questions un petit peu plus générales, mais il y a un argument qui dit, oui, mais le RGPD est tellement contraignant que du coup, ça veut dire qu'on a plus de mal à développer des géants nouveaux, y compris des géants européens. C'est peut-être vrai, moi, j'en suis pas convaincu, mais en tout cas, je crois qu'il est important qu'on resserre un petit peu les rênes ou qu'on, je sais pas, resserre les lacets, qu'on reprenne les rênes. et c'est ce que fait le RGPD. Et d'ailleurs, il y en a d'autres qui s'en inspirent. Il y a des voix de plus en plus fortes qui commencent à monter aux États-Unis, qui disent « il nous faut un truc, peut-être pas exactement comme le RGPD, mais un truc équivalent ». Donc je crois que sur ce cas, peut-être que c'est pas exactement la bonne manière, mais en tout cas l'intention est louable. Et comme toujours, le parfait est l'ennemi du bien ou le parfait est l'ennemi du pas trop mal. Et on peut trouver plein de raisons pour dire que certaines lois ne sont pas parfaites. Mais pour moi, tant qu'elles ne sont pas juste mauvaises, peut-être qu'il faut quand même se dire bon, bah, allons-y quand même, quoi.
Ah non, je suis entièrement d'accord avec toi et je ne suis pas du tout contre le RGPD. Hein. Je trouve que c'est une bonne chose qu'on soit positionné là-dessus, que l'Europe se soit positionnée là-dessus, ça tout à fait. Après, ce que je dis, c'est que c'est juste pas suffisant dans le sens où ça, c'est une sorte d'attaque contre les géants américains, mais finalement, on ne fait pas autre chose et on ne permet pas effectivement l'émergence de géants européens en y mettant les moyens pour permettre l'émergence de ces géants européens. C'est plus mon point, parce qu'effectivement, on ne pourra pas rester dans cette situation avec que des géants américains qui vont avoir de plus en plus d'influence, et on ne va pas pouvoir non plus se mettre à l'opposé, parce que si tu prends l'opposé, hein, à gauche, on a les États-Unis qui ont ça, à droite, on a la Chine qui, elle, a dit bah, il n'y aura pas d'acteurs américains, moi j'aurai les miens et je fais mes propres géants, et ils le font parce qu'ils ont les moyens de le faire. Bon, sauf qu'après, par contre, c'est un gouvernement totalitaire qui le met et c'est eux qui gèrent les données et l'influence. Bon, voilà, on a la chance d'être l'Europe, on est au milieu, qu'est-ce qu'on fait pour avoir justement quelque chose d'un peu contrebalancé entre ces deux choses-là?
Et là encore, effectivement, on a la question, on n'a pas forcément de réponse. Tous les gouvernements, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, de Dieu sait où, seront d'accord pour dire oui, il faut développer nos propres grandes entreprises dans le domaine de la technologie. Et je dirais, l'un des moyens d'y arriver, ça serait peut-être encore plus de mise en commun des moyens et des ressources en Europe, parce que l'un des aspects importants de ces deux exemples que tu as donnés, c'est un énorme marché intérieur et une facilité pour grossir assez rapidement. Peut-être qu'on peut trouver un moyen de concilier nos cultures et nos modes de vie européen et cette mentalité. Mais bon, il y a plein de gens qui essayent et c'est pas facile, donc on résoudra pas ce problème-là. La seule chose que j'ajouterais, c'est que une chose dont on est sûr, c'est que les articles 11 et 13 de la réforme de la loi sur le droit d'auteur, la réforme du droit d'auteur, ça, c'est pas le mieux et l'ennemi du bien, je sais pas quoi, le parfait, l'ennemi de... c'est juste, c'est pas bien, tout court. Donc ces articles-là spécifiquement, là, on n'est pas dans une situation où oui, bon, c'est pas trop mal, donc on pourrait... Non, non, là, c'est... il vaut mieux faire autre chose complètement et oublier celui-là.
Oui, c'est pas du tout une solution, ça.
Au contraire, là, on est d'accord.
Ça va tuer encore plus, d'ailleurs, les médias et les droits d'auteur.
C'est un énorme souci. Bref, puisqu'on parle d'attaque des géants américains, on a des détails sur la loi que veut mettre en place le gouvernement français, de manière, on l'espère, temporaire, jusqu'à ce qu'on ait trouvé un accord au niveau européen, pour harmoniser justement les taxes sur les grandes entreprises du numérique. Alors, on en a parlé plusieurs fois, effectivement, et dans cette émission, je crois qu'on était relativement d'accord pour dire que l'un des problèmes sur la taxation et la fiscalité en Europe, c'est qu'on avait des fiscalités différentes dans différents pays, et que du coup, les profits été balancées d'un pays à l'autre et que donc les sociétés ne payaient pas d'impôts là où elles auraient dû les payer et en payer le moins possible dans les pays où les impôts étaient le moins élevés en faisant bouger leurs profits. Eh bien, la France a proposé il y a plusieurs mois de taxer les revenus donc généraux, pas juste les profits, et donc taxer le chiffre d'affaires des grandes sociétés du numérique, et voudrait imposer cette méthode de taxation au niveau européen. Alors je sais qu'il y a des auditeurs qui ont dit « Ah, mais encore une taxe, ah, mais ça va pas marcher parce que c'est... on peut quand même aller ailleurs et opérer ailleurs, etc. » Et donc ça marchera pas. Là, je crois qu'on est dans une situation où, justement, c'est le parfait et l'ennemi du bien, voire même, peut-être même, un petit peu d'incompréhension ou peut-être d'un petit peu de mauvaise foi, je ne sais pas, c'est possible. Mais parce que, dans ce cas précis, si on taxe le chiffre d'affaires, bah, il n'y a pas d'aller ailleurs ou je ne sais pas quoi. Le chiffre d'affaires, s'il est réalisé en France, ce n'est pas comme les profits. On peut pas les balader aussi facilement. Le chiffre d'affaires, on peut plus facilement définir où il est situé géographiquement. Donc, ça serait un moyen d'éviter justement cette fuite cet abus d'optimisation fiscale qui est un problème dont on parlait depuis longtemps et dont nous, plusieurs personnes dans l'émission, disaient « Bah oui, mais c'est comme ça qu'est fait la fiscalité. » Donc, si on veut pas avoir des débats interminables sur qu'est-ce qui est moral et qu'est-ce qui est pas moral, et exiger de sociétés comme de personnes qu'elle fasse plus que ce que demande la loi, ce qui est complètement irréaliste, eh ben, il faut changer la loi. Maintenant, la France est en train de changer la loi. On espère, ils ont bon espoir visiblement, d'harmoniser au niveau européen dans les mois qui viennent. Et donc, on a quelques détails sur la manière dont ça va fonctionner, cette loi, qui sera présentée d'ici fin février. Alors, elle concernera toutes les sociétés qui proposent des services numériques et des services numériques représentant un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros dans le monde et 25 millions d'euros en France. Ça sera rétroactif au début de l'année, même si le texte n'est pas approuvé tout de suite. Ça sera rétroactif depuis le 1er janvier 2019. Ça sera le taux ira jusqu'à 5%, mais il sera différent en fonction du chiffre d'affaires. Donc, le maximum sera de 5%. On imagine pour les géants, ça sera 5%. Et il prévoit que le rendement soit d'environ 500 millions d'euros par an. Donc, bon, ça ne va pas non plus changer les finances du pays, mais c'est déjà ça. Et donc, le mécanisme devrait être temporaire et on espère trouver une solution européenne à terme. Bruno Le Maire disait qu'il avait bon espoir de trouver un accord avec l'Allemagne suite aux dernières discussions qu'ils ont eues. Bon, là encore, j'ai fait un petit résumé de la chose. C'est les détails qui sont intéressants. Donc, le taux est modulable en fonction du chiffre d'affaires. On a les détails sur les chiffres d'affaires à partir desquels il faut commencer à payer cette taxe. Comme vous l'avez compris, moi, je pense que c'est sans doute une bonne solution parce que sans l'approche chiffre d'affaires, eh ben, les profits sont passés ailleurs pour différentes raisons, parce que le numérique est dématérialisé, etc. Et donc, c'est compliqué d'obtenir l'argent des taxes dans les pays où le business est effectivement fait, si on ne considère que ces profits. Gaël, tu semblais dire tout à l'heure que il y a des attaques aux géants américains. Est-ce que ça, c'est une méthode, une approche qui te semble acceptable ou est-ce que c'est un petit peu poussif ?
Non, ça me paraît. Enfin, étant donné qu'ils ont quand même mis effectivement un plancher de chiffre d'affaires, je trouve ça plutôt intéressant parce que le but c'est qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux sur les plus petits. Et ce qui est généralement, ce qui a été plutôt généralement le cas sur les autres solutions qu'ils essayent d'apporter. Donc là, au moins, ça montre que c'est vraiment une attaque entre guillemets. Quand je dis attaque, ça ne veut pas dire que je suis contre hein, ou pour. Mais,
oui, parfois il est important de passer à l'attaque.
C'est ça, exactement. Ouais. Donc là, le fait de dire c'est vraiment pour ceux qui ont un chiffre d'affaires supérieures à 750 millions, au moins ça cadre tout de suite le débat.
Et on sait de qui on parle tout de suite.
Voilà. Donc c'est plutôt, enfin effectivement, hein, il y a un moment donné, il faut ramener, il faut bien trouver la solution et éviter effectivement les jeux sur la fiscalité. Après, moi, la question que ça me laisse poser aussi, c'est de dire, on dit que c'est temporaire parce qu'on a bientôt trouvé une solution. Donc pourquoi est-ce qu'on déploie autant d'efforts si c'est vraiment juste temporaire et qu'on pense qu'on va trouver une solution dans les mois à venir? Je me pose juste cette question et je me dis, on n'est peut-être pas si près de trouver une solution européenne.
C'est possible.
Mais au moins, voilà, on fait quelque chose. Donc, c'est bien, ouais. Faisons-le et avançons, effectivement. Voilà, avançons.
J'irai deux ou trois choses. Effectivement, la solution européenne. Bon, ensuite, il faut qu'elle soit actée au niveau européen, puis implémentée dans les pays. Donc, même si elle est trouvée, la solution, là, c'est un moyen de dire, bah voilà, les géants américains dont on parle tout le temps maintenant, paf, ça y est, c'est réglé, cette question. Et c'est effectif tout de suite. Donc, c'est, à mon sens, c'est une bonne approche. Parce que au niveau européen, ça risque de prendre un an, deux ans, peut-être même plus, même si on a trouvé l'accord. Une autre chose à dire, c'est que Google n'est pas complètement contre cette idée. Donc, c'est pas que tous les géants disent « Ah, ben non, c'est insupportable, c'est machin ». Ils sentent bien la pression, ils sentent bien qu'ils peuvent pas continuer jusqu'à la fin des temps avec ces optimisations fiscales. Et visiblement, au moins certains d'entre eux se disent « Bon, ok, allez, on y va ». Et donc, ça semble convenir à tout le monde. Donc, tous ceux qui disent « Ah, mais non, c'est plus de taxes ». Enfin, ça semble convenir à tout le monde. Je fais peut-être un petit raccourci, mais tout le monde n'y est pas opposé. Donc, encore une fois, vraiment, je ne suis pas pour les taxes à tout va et le fait d'attaquer les géants américains pour le principe. Mais là, c'est quelque chose qui est réfléchi et qui est etc. Et... J'aime bien la manière dont je développe mes arguments, qui réfléchit et qui etc. C'est quand même assez puissant comme raisonnement. et puis aussi, ça concerne pas que les Américains. Si jamais on créait des géants européens dans ce domaine, il faut pas imaginer que ils paieraient beaucoup plus volontiers leurs impôts sous l'ancienne entre guillemets ou l'actuelle fiscalité. Il est évident qu'un géant européen, français même, irait se faire un siège au Luxembourg ou en Irlande ou Dieu sait où si c'était un géant du numérique et ferait exactement ce que fait Google. Donc c'est plus que j'ai l'impression presque que le spectre des Américains biaise la chose. On a l'impression que si seulement on avait une situation un petit peu différente avec des Européens ou si les Américains n'étaient pas aussi importants, eh ben ça irait mieux au niveau fiscalité. Mais moi, je suis pas sûr. Il est évidemment important, comme le disait Gaël, d'avoir des géants français et européens dans le domaine du numérique aussi. Ça serait idéal. Mais pour la question de la fiscalité, ça ne réglerait pas le problème. Donc, repenser la fiscalité dans un monde où le numérique permet de délocaliser à ce point le travail, c'est important, quelle que soit la nationalité de ces grandes entreprises. Donc, c'est une chose que je voulais noter aussi.
C'est très juste. Non, c'est très juste, tu as raison de le dire.
Bon, trois petites news encore politiques rapidement. Il y a eu un mouvement des gilets jaunes, ou pas un mouvement, mais un vent de panique parmi les gilets jaunes qui ont eu l'impression de perdre de très nombreux membres dans leur groupe, des gilets jaunes sur Facebook. Et l'espace de quelques jours, il y a eu des posts sur Facebook qui disaient « Ah, nous avons perdu tant de gilets jaunes, tant de membres dans les groupes, est-ce que c'est de la censure de Facebook, etc. » Alors, ça n'a pas duré très longtemps, il ne faut pas être dramatique sur cette chose-là, dramatiser les choses, parce que très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a une mise à jour qui a été faite, comme souvent dans ces événements, et une mise à jour qui a été faite chez Facebook sur la manière dont Facebook fonctionne. En l'occurrence, c'était sur le compte des nombres de membres d'un groupe, parce que jusqu'à maintenant, Facebook comptait tous les membres, y compris tous les membres invités qui n'avaient pas accepté une invitation, ce qui est, je pense, on sera d'accord, pas tout à fait juste. Donc, si on avait envoyé une invitation, si moi j'avais envoyé une invitation, imaginons, je crée un groupe, les gens qui trouvent que Patrick est super intelligent et super sexy, j'invite tout le monde, tous les gens que je connais. Gaëlle n'accepte pas cette invitation parce qu'elle me trouve con et moche.
Mais si, j'aurais accepté.
Si, quand même. Ok, merci. Si tu n'avais pas accepté, scénario totalement improbable, tu aurais quand même été compté. Et bien là, avec la mise à jour, tu n'es plus compté parce que tu n'as pas accepté, tu n'es pas venu sur le groupe. C'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes et avec tous les groupes du monde sur Facebook. Donc, c'est intéressant pour cette problématique spécifique, mais c'est aussi intéressant parce que c'est souvent la manière dont fonctionnent les vents de panique sur les réseaux sociaux. On se dit « Ah merde, il se passe un truc pour telle raison !» Et en fait, ça a une explication totalement raisonnable, quoi.
Ce n'était pas un complot.
Encore une fois, ça n'était pas un complot, mais un jour, ça va finir par l'être. Il y a une autre mini polémique sur une déclaration de notre ami Macron, Emmanuel Macron, qui disait vouloir une levée progressive de toute forme d'anonymat. Il y a eu un petit extrait qui a été publié sur les réseaux sociaux, qui a été beaucoup partagé, qui est très intéressant. Je vous inviterai vraiment à l'écouter en entier. Vous pouvez faire une recherche très rapide sur Quant, par exemple. Macron, anonymat, et vous retrouverez cet extrait. Il fait 2 minutes et demie. Et à la fin, il dit quelques mots sur la levée de toute forme d'anonymat. L'extrait, encore une fois, ne vous basez pas sur un titre d'article pour juger l'article, ne vous basez pas sur un extrait de quelques mots sur une vidéo de 2 minutes et demie. La vidéo est vraiment intéressante parce qu'il exprime un problème qu'on constate tous dans le monde de la technologie, qui est le problème de l'égalité de légitimité perçue sur les réseaux sociaux et sur Internet. C'est-à-dire que n'importe qui peut dire quelque chose et on a un petit peu l'impression que tout le monde a la même légitimité. Alors que, évidemment, ce n'est pas le cas. L'exemple qu'il prend, c'est si on parle d'une question médicale ou scientifique, lui-même, donc président, n'aura pas la même légitimité qu'un médecin ou un scientifique. Sur une question d'organisation gouvernementale, il sera peut-être un petit peu plus légitime que quelqu'un d'autre. Mais sur Internet, il y a un vrai problème qui est que toutes les sources se valent un petit peu. Alors, il pose vraiment la base de ce problème de manière cohérente. Et je dirais, c'est un petit peu rassurant que les classes politiques, j'imagine qu'il n'est pas le seul, mais commencent à prendre conscience de ces problèmes de manière vraiment juste. Là où ça pose problème, c'est la question de l'anonymat, parce qu'il conclut en disant qu'il est pour une levée progressive de toute forme d'anonymat. Alors, il n'est pas tout à fait clair, ce n'est pas une loi qu'il a proposée, hein, il n'est pas tout à fait clair. C'est pas tout à fait clair de voir s'il parle spécifiquement de la question de la délibération dans le cadre de la démocratie. Il parle de démocratie délibérative à un moment, ou s'il dit plus d'anonymat sur Internet tout court. Mais dans les deux cas, c'est problématique parce que l'anonymat a évidemment une force et évidemment important sur Internet. On va pas refaire toute la liste des raisons pour lesquelles l'anonymat est important. Et il est difficile de se dire on va lever l'anonymat dans un cadre et pas dans un autre. C'est tellement poreux que on peut pas dire bon bah pour les trucs pas importants entre guillemets on va garder l'anonymat et pour les trucs importants entre guillemets de les débats démocratiques on va lever l'anonymat. Non, c'est pas possible. Regardez ce qui se passe avec les Gilets jaunes par exemple. Ça se passe sur Facebook, ça se passe avec des gens qui sont complètement comment dire. qui sont pas forcément des responsables politiques, qui sont pas des leaders d'associations, et donc ce sont pas des gens dont on peut dire ah ben lui il ne peut plus être anonyme et elles peuvent rester anonymes. Non, c'est important sur Internet cette égalité. En fait, c'est ça qui est dur, c'est que l'égalité de parole est aussi importante qu'elle pose des problèmes. L'égalité de légitimité est aussi importante qu'elle pose des problèmes. Donc, je ne sais pas vraiment quelle est la solution, mais je ne pense pas que l'idée de lever l'anonymat en général pourrait être appliquée, même si dans l'idée, on pourrait se dire « Oui, mais alors, les gens qui disent des trucs qui commencent à avoir une forte portée, on lève leur anonymat. » Mais non, ça fonctionne pas, parce que la limite... Comment dire ? C'est pas l'anonymat qui est le problème, c'est la légitimité. J'ai envie de dire les choses comme ça. Et les deux sont un petit peu... sont pas aussi liés qu'on pourrait le penser. La légitimité, en fait, on l'accorde, nous, lecteurs d'Internet, à peu près tout le monde, alors qu'il faudrait pas. Il faudrait faire un travail de réflexion, un travail de sur soi, de se poser la question, est-ce que je vais accorder cette légitimité à telle ou telle source alors que je n'en connais rien ou pas ? Et le fait d'en connaître plus, même si c'est une source qui n'est pas... On sait déjà que c'est une source qui n'est pas forcément légitime, mais on lui accorde quand même la légitimité. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que j'essaye d'exprimer. Peut-être que toi, Gaëlle, tu auras plus de... Est-ce que tu peux me sauver dans mon raisonnement ? Je ne sais pas.
Non, mais si. Enfin, je pense que ce que tu dis est très juste, encore une fois.
Merci, j'aime bien. Continue sur cette voie, ça me plaît.
L'anonymité, enfin, de toute façon, enlever l'anonymité, c'est ça. Effectivement, ça peut être intéressant en te disant super, ça va enlever les haters, le harcèlement et l'influence des gens qui disent n'importe quoi et les fake news. Bon. Pourquoi pas, effectivement, ça peut être intéressant pour ça. Après, enlever l'anonymité, c'est compliqué parce que d'abord, techniquement, ça me paraît improbable et impossible. Oui. Ensuite, en termes de sécurisation, si en plus, si on revient au premier sujet, bah, si en plus les gens sont plus anonymes et qu'ils ont toutes leurs données sur Internet, ça commence à devenir compliqué. Ça devient compliqué aussi pour une autre raison, c'est que tant qu'on est dans une démocratie, c'est intéressant, mais dès qu'on passe à une dictature, bah, pour opprimer un peuple, c'est génial hein, d'avoir le nom et l'adresse de tout le monde et de savoir exactement qui a dit quoi. Donc voilà, mais après, la vraie question derrière tout ça, et tu le dis très bien, c'est l'information et le fait qu'on accorde la même la même légitimité à toutes les informations. Jusqu'à présent, en fait, on avait ce qu'on appelait la presse ou les médias et les journalistes qui faisaient et qui font d'ailleurs hein, toujours ce métier de vérifier des informations, être sûr qu'ils ont une variété de sources pour s'assurer que l'information est juste et la plus neutre possible. Sauf qu'aujourd'hui, bah, on va plus vers les médias qui font ce travail-là et on va directement à des sources qu'on ne connaît pas. Donc en fait, la vraie question, c'est il faut réapprendre aux gens à s'informer. S'ils ne veulent plus s'informer par des médias officiels, bah, il va falloir qu'ils fassent le travail de journalistes eux-mêmes. Et ça veut dire vérifier la source, qui est derrière, vérifier, regarder un peu la variété d'informations et savoir aller chercher plusieurs opinions, parce que souvent, en fait, c'est pas tellement de l'information qu'on te donne, c'est plutôt une opinion qu'on te donne, et savoir effectivement reconnaître une opinion versus un fait, donc c'est la neutralité. Et donc tout ça, c'est une véritable éducation, c'est de l'éducation aux médias et à l'information, c'est des choses qui arrivent d'ailleurs dans les écoles hein, et on commence en tout cas en France il commence à y avoir vraiment ça commence à rentrer dans le programme scolaire et c'est hyper important.
C'est vrai qu'il y a vraiment cette question de... Je comprends pourquoi on lie la légitimité à l'anonymat parce qu'il y a quelque chose quand même, c'est pas complètement déconnecté mais c'est vraiment ça, c'est le problème de légitimité et les changements qu'ont amené Internet et en particulier les réseaux sociaux dans notre société sont tellement importants, il faut que la société réapprenne comment gérer son fonctionnement dans un monde où l'information ne fonctionne plus de la même manière. Et effectivement, ça va prendre peut-être quelques années, une génération peut-être pour comprendre à appréhender. Parce que c'est très simple, bien sûr, on le sait tous intellectuellement. On se dit, ah bah oui, donc n'importe qui peut poster n'importe quoi sur un réseau social et ça ne veut pas dire que machin. Mais il n'empêche, quand on le voit, on est tous les premiers à réagir de manière un petit peu sanguine, à voir un truc, un tweet, et on le prend un petit peu comme une information légitime. On n'a pas encore réussi à intellectualiser l'idée que, bon, je prends une pause, je m'emporte pas, je vais pas retweeter comme un fou parce que c'est honteux, ou je vais pas répondre énervé parce que c'est lamentable. On n'appréhende pas encore ces nouveaux outils malgré toute notre technophilie. On ne les a pas et la société au sens large ne les a pas encore apprivoisés. Donc c'est vraiment ça, oui. Et les cours, je sais pas si c'est les cours à l'école ou en tout cas pour tous. Le rendez-vous tech est très important, messieurs, dames. C'est ça qu'il faut retenir. pour comprendre tout ça.
C'est exactement ça, effectivement. Non, mais il faut aller chercher ce que ton travail que tu fais, justement, d'aller chercher tous les articles, essayer de comprendre et aller chercher plusieurs articles sur un même thème. Voilà, ça prend du temps. Mmh. Et tu le sais mieux que personne. Mais effectivement, on ne prend pas ce temps pour le faire. C'est aussi ce que font les médias officiels, c'est de faire ce boulot-là. Voilà, si on est dans un contexte, comme on dit, d'info-obésité, il y a de l'info qui vient de partout, des réseaux sociaux, des chaînes d'infos en continu, etc., etc., et il va falloir apprendre à le gérer. Mais c'est pas évident, et c'est pas évident, et il faut que des rendez-vous tech fassent le job. Nous, on fait le job avec coude pour les plus petits, pour les enfants. Voilà, on essaye en tout cas de faire changer les choses à ce niveau-là.
Bon, tu sais quoi, j'avais un dernier sujet, mais je crois qu'on va l'oublier parce qu'il n'est pas tellement tech, finalement. Donc, on va passer à d'autres choses. Juste en conclusion, effectivement, au moins le fait que la légitimité et l'anonymat soient mis en question, ou en tout cas, le problème est au moins relativement bien posé. Ensuite, c'est les solutions qui sont pas forcément idéales. Mais moi, pour être un petit peu positif, je trouve vraiment que la manière dont, et encore une fois, aller regarder les 2 minutes et demie de vidéo et pas juste le gros titre, le problème est compris. Donc, c'est peut-être une première étape. J'ai une question pour toi, du coup, Gaëlle.
Vas-y.
J'ai posé des questions, enfin, j'ai proposé aux Patriotes de nous poser des questions et j'en ai choisi quelques-unes. Et justement, Baptiste a demandé « As-tu des conseils d'app ou autres pour Papa Geek ?» J'imagine que ça fonctionnerait pour une maman geek également. Baptiste, donc, qui est un Patriote, qui a posé la question sur Patreon dans l'article que j'ai posté. Toi, tu es chez Coud, qui est cool et good en même temps. En gros, vous occupez de la manière dont les plus jeunes d'entre nous peuvent être éduqués à la chose technologique, n'est-ce pas ?
Tout à fait, voilà. C'est exactement ça.
Donc peut-être que la question est bonne à te poser à toi, la question de Baptiste. On fera peut-être un jour un épisode spécial sur ce sujet, mais là, rapido, ça va être des questions rapides. Est-ce que s'il y a une app intéressante pour les parents geeks, laquelle tu choisirais ?
Déjà, effectivement, ça va dépendre juste de l'âge de l'enfant, parce que s'il a moins de 3 ans, s'il a plus de 6 ans, s'il sait lire, s'il sait pas lire, c'est forcément très différent. Voilà, juste déjà, en premier lieu, je dirais, pour les enfants, si je dois donner un conseil, c'est d'aller plutôt sur de l'appli payante. Pourquoi ? Parce qu'on est plus sûr qu'il n'y ait pas de publicité, de liens sur lesquels un enfant, si à un moment donné on le laisse, parce que c'est aussi pour ça qu'on aime les apps en tant que parents, on culpabilise, mais on aime bien pouvoir les laisser 10 minutes sur une appli pour aller prendre une douche, par exemple. mais du coup, effectivement, voilà, c'est plutôt, moi j'irais plutôt vers de l'appli payante quand ça concerne les enfants, pour éviter les problèmes. La deuxième chose, on vient d'en parler, mais c'est de regarder la source, qui est la personne qui produit cette appli, pour savoir si c'est des gens sérieux ou pas. Après, je vais juste recommander un site, qui est un site américain, qui s'appelle commonsense.org. On redonnera le lien, mais ce site est plutôt très bien fait, parce que c'est un site où, en fait, des parents, des enfants, des éducateurs testent les applis et les recommandent. Ils ne le font pas d'ailleurs... pas que pour les applis, ils le font aussi pour les films. Et moi, j'adore ce site, parce que je me suis posé la question, mon fils a 6 ans, est-ce qu'à quel âge je lui fais regarder Star Wars, E.T. et tout ça. Et il y a tout, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de films, beaucoup d'ailleurs d'anciens films de notre jeunesse, je dirais, qu'on a envie de partager très vite, voire peut-être un peu trop tôt avec nos enfants. Et là, les parents, les enfants, d'ailleurs, disent eux aussi s'ils ont eu peur, pourquoi. Donc parfois, il y a des enfants de 8-10 ans qui disent j'ai aimé ce film, mais il m'a fait peur à tel moment. Voilà, donc c'est plutôt très bien fait, parce qu'il y a l'avis de tout le monde, et surtout c'est détaillé, donc vous savez pourquoi, parce qu'effectivement c'est quand même assez, assez personnel d'aimer une appli ou un film ou un site, donc d'avoir les informations sur pourquoi et comment ils ont aimé, c'est plutôt intéressant. Donc commonsense.org, c'est ma reco du jour.
Super, donc ouais, commonsense.org, alors c'est en anglais uniquement malheureusement, mais ça peut quand même rendre des services. Guillaume Achez nous pose une question qui est un petit peu bête, mais en même temps un petit peu intelligente. C'est cette frontière entre génie et stupidité. Est-ce que vous mangeriez de la viande de chat si c'était de la viande synthétique ? Et bon, ça m'a fait rire, bien sûr, mais comme on parlait du Impossible Burger la semaine dernière, avec cette viande qui n'est pas vraiment de la viande, qui est qui est végétale, mais qui reproduit le goût et la texture de la viande, on sait qu'il y a une autre voie qui est explorée pour créer de la viande sans tous les problèmes que pose la culture de la viande aujourd'hui, qui est le fait de faire pousser de la viande à partir d'un petit peu de viande et de reproduire. En fait, c'est de la viande... Bon, scientifiquement, je ne vais rien dire pour ne pas dire de bêtises, mais on fait pousser de la viande, en gros. Mais du coup, si c'est de la viande de bœuf, OK, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a déjà des procédés qui sont en cours d'étude. Si c'est de la viande de bœuf, ça ne vient pas d'un bœuf, c'est déjà un petit peu bizarre. Mais pourquoi pas si c'est bon, si c'est sain, etc. Si c'est de la viande de chat... Bon, il n'y a pas de chat qui a effectivement été tué pour qu'on le mange, mais c'est quand même de la viande de chat. Gaëlle, est-ce que tu mangerais de la viande de chat synthétique ?
Écoute, je ne connais pas le goût de la viande de chat. Donc je me dis que déjà, ça veut dire qu'il faut goûter tous les types de chats en plus, parce qu'il y a plusieurs races. Est-ce qu'on parle de chats domestiques ou de chats sauvages? Je ne sais pas. Chat qui mange de la croquette ou chat qui mange de la pâté Whiskas? Je ne sais pas.
Ouais, non, c'est vrai. Non, mais tu fais bien. Tu reviens à la question fondamentale. On aurait peut-être tous une réaction de rejet, genre, oh non, les chats, c'est mignon, on ne mangerait pas de la viande. Mais si c'est délicieux, hein, si c'est un truc absolument... Il y a bien des gens qui mangent des je sais pas, les huîtres. Les huîtres, c'est dégueulasse, mais on les mange quand même. Les escargots, bah oui, les escargots, on mange des escargots, etc., etc. Donc... Bon, c'est vrai, quel est le goût de la viande de chat et quel chat ? C'est une bonne question. Fidel Castor me demande, je crois que c'est à moi, c'est pour quand le deuxième bébé ? On va attendre, hein. On va se calmer, on attend un petit peu. Thierry me dit, quel logiciel utilises-tu pour enregistrer, pour monter ? Alors, j'ai Skype pour enregistrer, mais j'utilise aussi Discord de temps en temps, particulièrement pour les gens qui sont des gamers. Et en fait... Skype a l'avantage qu'il est beaucoup plus... la qualité du son est un petit peu moins bonne, mais il est beaucoup plus résistant au lag, alors que Discord est moins résistant au lag et la qualité de son est un petit peu meilleure. Donc, c'est les deux outils que j'utilise, ça dépend en fonction des intervenants. Question sur la manière dont on fait aussi l'émission, toujours de la part de Thierry. Est-ce qu'on a juste le son sur Skype ou est-ce qu'on a aussi la vidéo ? Ben non, on a juste le son, en fait. L'une des raisons, c'est que je veux que ça soit aussi versatile que possible et que n'importe qui puisse participer de n'importe où facilement. Et donc, ça permet de s'assurer que la qualité est bonne parce que ça demande moins de bande passante. Et n'importe qui peut participer très facilement avec juste un écouteur, même un smartphone, parfois, ça peut fonctionner.
Que tu veux être en pyjama pendant que tu fais ton émission.
Ça peut jouer aussi, oui. Parfois, je suis pas très présentable. En pyjama, avec les cheveux un petit peu... Tu vois, pour que les gens rejoignent mon groupe Facebook, Patrick est super intelligent et super sexy, il vaut mieux qu'on ne me voit pas trop, en fait. C'est ça. c'est pour ça. Combien de temps en préparation avec les participants pour ensuite faire leur enregistrement ? C'est beaucoup de préparation. Je n'ai jamais vraiment compté, mais la veille est un petit peu permanente. C'est entre la gestion technique, la veille, la publication, etc., je dirais, enfin, je sais pas, mais c'est plusieurs heures, au moins minimum une heure par jour, et c'est le minimum quand je fais pas grand chose. Donc, ouais, c'est beaucoup de préparation.
J'en profite pour saluer le travail que tu fais sur la veille, parce qu'il y a un nombre hallucinant d'articles que tu vas chercher, que tu partages d'ailleurs pour préparer l'émission. J'avoue ne pas tous les lire tellement il y en a, mais bravo, c'est un gros travail.
Ouais, c'est l'un des trucs dont je parle de temps en temps. Effectivement, il y a beaucoup. La veille est un gros boulot. D'ailleurs, les patriotes qui ont accès aux notes de l'émission peuvent le voir. Il y a généralement entre, on va dire, 70-100 articles qui sont dans le... Allez, entre 65 et 100 articles qui sont dans les notes. Une bonne partie qu'on n'utilise pas du tout. Et surtout, ces articles-là, c'est ceux que j'ai sélectionnés. Parmi tous ceux que j'ai vus, il y en a peut-être 200 par jour que je trie. Alors, je ne les lis pas tous. Hein. Il y en a plein que je ne lis pas parce que je sais que ça ne m'intéresse pas. Mais il y en a peut-être 150-200 par jour, y compris le samedi, peut-être moins le dimanche, mais il y en a quand même. Et j'en lis une partie, je ne les sélectionne pas tous, c'est du boulot. Ouais. Yakamama Matt et Olivier posent à peu de choses près la même question. Où est-ce que je me vois dans 5 ans avec le Patreon, est-ce qu'on on aimerait faire grossir l'activité, embaucher des gens, etc. Alors, dans 5 ans, j'aimerais bien me voir podcasteur encore. Maintenant, ça fait bientôt 5 ans. Alors, ça fait 10 ans que l'émission existe. Le prochain épisode sera d'ailleurs un épisode spécial où on parlera de ces 10 ans avec Yann et Jeff. Donc, c'est un moment sympathique. Et donc, ça fait 10 ans et 5 ans du Patreon. Et le Patreon va peut-être... Je vais un petit peu faire évoluer le Patreon dans quelques semaines, une ou deux semaines, pour se renforcer un petit peu sur la communauté. Je crois qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Mais bref, dans 5 ans, encore podcasteur. Oui, c'est mon métier de rêve. J'espère que ça le sera encore dans 5 ans. Et je me vois encore podcasteur. Pour la question faire grossir l'activité, j'aimerais bien. Moi, je vois toujours le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu comme mes deux piliers du podcast. La question du Patreon est compliquée sur les deux en même temps, donc je ne sais pas, il faut que je continue à y réfléchir à ce niveau-là. Embaucher des gens, comme vous le savez, je paye certains des intervenants, en fait les intervenants réguliers qui sont tenus, entre guillemets, d'être là, ils sont désormais payés. J'ai Nicolas Poppy qui m'aide sur certaines choses, qui est lui aussi un petit peu rémunéré. J'aimerais faire grossir. Aujourd'hui, c'est pas vraiment possible au-delà de ce que je fais déjà, mais déjà ce que je fais aujourd'hui aurait pas été possible il y a, je pense, 2 ou 3 ans. Donc, j'aimerais continuer à faire grossir les choses de cette manière. Idéalement, j'aimerais bien me décharger de ce qui est administratif pour me concentrer sur les podcasts et peut-être en faire encore un petit peu plus. Mais comme toujours dans le podcast, les choses progressent lentement, mais sûrement. Donc, je conclue avec si vous souhaitez que l'émission continue sa croissance et continue, tout simplement, même pas question de croissance, mais si vous l'appréciez, si vous appréciez le travail, vous savez ce qu'il faut faire, hein, patreon.com/rdvtech, et vous choisissez comment vous soutenez l'émission. C'est très simple, ça prend 2 minutes. Je conclue avec la question de Pierre Damien qui demande pourquoi la vie, l'univers et le reste, et la réponse est évidemment 42. Parlons de Satya Nadella qui a annoncé que Cortana allait se retirer de la course des assistants personnels et en fait va devenir un outil pour Alexa et ils espèrent pour Google Assistant. Et donc, il ne sera plus en concurrence. Donc, ce n'est plus un assistant Cortana. Et ils disent, entre parenthèses, que Windows Phone, le support de Windows Phone se termine cette année. Donc, passez sur iOS ou Android. Donc, on est vraiment dans cette orientation de Microsoft d'être présent partout chez tout le monde et de ne plus forcément être eux-mêmes le fournisseur de systèmes d'exploitation. Alors, Cortana ne disparaît pas, mais ils se mettent en retrait. Est-ce que c'est reculé pour mieux sauter ou est-ce que vraiment, Gaël, je ne sais pas si c'est pas forcément ton domaine de spécialité, mais est-ce que c'est pas... Moi, ça me paraît être un petit peu une erreur d'abandonner cette course parce qu'ils sont tellement importants, les assistants personnels, pour l'avenir. Je ne comprends pas pourquoi Microsoft dit Cortana n'est plus un assistant personnel. C'est juste un outil pour Office qui est accessible depuis les autres assistants.
Alors c'est marrant, je le vois pas comme ça et je le vois pas forcément comme une erreur, mais plutôt comme ce qu'a souvent fait Microsoft. Ils s'orientent sur le B2B et pas le B2C. Donc ils savent que sur le B2C, ils ont jamais été non plus incroyablement bons, si je peux me permettre.
Oui, on pourrait débattre de la chose, mais oui.
Oui, enfin non, il y a
Il y a Windows qui en même qui est.
C'est ça, non, mais il y a les choses de base. Mais dès qu'ils ont voulu aller sur d'autres business qu'ils maîtrisaient pas, quand ils sont sur leur core business, ils sont excellents. Quand ils ne le sont plus, ils ont du mal et ils en prennent conscience. Donc je trouve ça plutôt bien d'en prendre conscience et de pas insister dans ces cas-là. C'est plutôt une décision stratégique plutôt bonne. Et après ils vont être sur le B2B, donc ils vont être quand même derrière d'autres sans qu'on le voie. C'est juste qu'on n'entendra pas parler de Cortana, mais derrière ça sera du Cortana.
C'est vrai que, de fait, s'ils sont... Alors, on sait qu'ils sont déjà disponibles interopérables avec Alexa. Google, à ma connaissance, ne permet pas ce type d'interopération. Peut-être que Microsoft est en négociation avec eux pour le faire, mais là, il n'y a rien d'annoncé. Mais, sur le principe, je comprends que l'idée de faire de Cortana s'ils sont en concurrence frontale avec les autres, eh ben, ça devient une question de part de marché, et Cortana n'a pas une énorme part de marché, puisque même en l'intégrant dans Windows, bah, les gens ne l'utilisent pas, donc c'est un petit peu c'est dommage. Mais en s'intégrant, s'ils réussissent à s'intégrer aux autres assistants, eh ben, du coup, ils sont disponibles partout. C'est un petit peu comme le problème qu'ils ont eu avec Windows Mobile. Si ils sont en frontal avec les autres systèmes d'exploitation mobile, eh ben, ils n'ont que leur petite part de marché. Par contre, s'ils ont leur logiciel sur tous les OS mobiles, eh ben, ils sont disponibles partout. Peut-être que c'est ça l'idée. D'ailleurs, c'est, oui, quand j'y réfléchis, c'est forcément ça l'idée de Satya Nadella. C'est pas si bête, finalement. S'ils réussissent à s'intégrer, par exemple, avec Google Assistant, j'imagine qu'ils n'auraient pas dit ça s'ils n'avaient pas quelque chose dans les tuyaux.
S'ils n'ont pas quelque chose en tête, ouais. Mmh.
On a des images de... du Pixel 3 Lite, qui est donc le nouveau téléphone de Google qui devrait être annoncé bientôt. C'est un téléphone un petit peu moins cher, une version du Pixel 3 un petit peu moins cher, qui devrait arriver bientôt. Et voilà, c'est pas très surprenant, mais encore plus intéressant, Fossil a vendu à Google une partie de ses propriétés intellectuelles de smartwatch. Ce qui voudrait dire, a priori, hein, on a du mal à imaginer autre chose, que Google serait en train de s'orienter vers la, on va dire, la conception d'une smartwatch. Google, peut-être une Pixel Watch, dont on entend tant parler depuis un moment. Ça serait intéressant, effectivement. On sait que Apple a pas mal de succès avec l'Apple Watch. L'OS, enfin le marché des smartwatches Android existe, mais il n'y a pas un élément qui sort du lot, on va dire. Peut-être que Google veut s'attaquer à ce type de produit. C'est possible. Facebook est en train de tester LOL. Alors, qu'est-ce que c'est que LOL ? C'est un flux de vidéos et de gifs marrantes qui sont tirés, sélectionnés des différentes sources de Facebook et qui sont... Alors, c'est en test, hein, c'est quelques centaines de personnes qui y ont accès. C'est un outil qui remplace l'un des flux de Facebook, en fait, l'un des onglets de Facebook. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas encore s'ils allaient l'utiliser. Alors, c'est en test. Ça se trouve, ça va devenir une partie de Facebook. Ça se trouve, ça sera un produit annexe. C'est marrant parce que Facebook a vraiment essayé et essaye toujours de redevenir sexy pour les adolescents. Là, c'est un petit peu, ça a l'air un petit peu forcé, mais pourquoi pas ? Je dirais à la fois ça fait marrer parce que bon, c'est Facebook qui essaye d'avoir l'air cool alors que c'est devenu l'endroit où les vieux, les parents sont actifs. Mais en même temps, bah, ils n'arrêtent pas d'essayer, quoi. Ils ont 1000, il y avait Lasso, il y avait, enfin, je ne sais plus quelles autres applications ils ont tenté de lancer qui n'ont pas marché. Mais ils ne s'arrêtent pas, ils regardent toujours de l'avant. Je parlais de ça avec Netflix aussi la semaine dernière. C'est une mentalité des, entre guillemets, startups, parce qu'ils ne sont plus vraiment des startups aujourd'hui, mais c'est cette idée de se dire, on va regarder de l'avant toujours, même si on est hyper fort aujourd'hui, on regarde ce qui se passe derrière. Et pour Facebook, ça a donné Instagram, WhatsApp, etc. Bon, je ne sais pas si LOL sera la solution. Toi, de ton contact avec les jeunes, est-ce que ça peut fonctionner un truc de Facebook ou c'est déjà mort ?
Bah, déjà, juste le nom, en fait, en dit long, ça s'appelle ouais. LOL. Et LOL, c'est utilisé que par les vieux.
Oui, bon.
Voilà, on imagine l'usage sera fait par, bah, par nous, les vieux, pas les jeunes.
Peut-être, ouais, c'est possible. Bon, peut-être que ça ne s'appellera pas LOL au final. Ça remplace Watch, là, pour les comptes qui l'ont en test. Mais oui, peut-être que ça ne s'appellera pas LOL au final. Mais oui, bon.
Enfin, c'est bien d'essayer, je ne suis pas... Je ne pense pas que c'est ça suffisant pour ramener les jeunes sur Facebook.
Bon, très bien. Tiens, entre parenthèses, je parlais de la question des Américains qui commencent à regarder les choses, à voir les choses un petit peu comme les Européens. La FTC, la Federal Trade Commission, serait en train de considérer une amende énorme pour Facebook, pour le scandale Cambridge Analytica. Donc, comme quoi, même les Américains, ils finissent par y arriver. Et il y a un sondage qui a été fait d'un échantillon représentatif d'Américains par Pew Survey, qui est quand même un organisme fiable, qui dit que 74% des Américains n'ont pas conscience que Facebook construit un profil qui réunit leurs intérêts et leurs caractéristiques pour cibler des publicités pour eux. 74% des Américains n'en ont pas conscience et 51% d'entre eux étaient un petit peu mal à l'aise avec cette idée. Et au-delà du sondage, enfin, ce chiffre me paraît hallucinant. Je veux dire, enfin, nous, on vit dans des mondes de technophiles, mais on en a tellement parlé de ces problèmes, de ce ciblage, des scandales avec Facebook Analytica. Comment faire comprendre aux gens, si même malgré tout ça, 74% des Américains ne savent pas que Facebook compile un profil de leurs préférences et de leurs intérêts et de leurs caractéristiques, comment faire comprendre aux gens ? Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut les mettre dans style orange mécanique avec les yeux écarquillés ? Enfin, j'ai complètement halluciné en lisant ce chiffre, moi.
Je ne suis malheureusement pas surprise et je pense qu'on ne doit pas être loin du chiffre en France aussi. Hein. À mon avis, on n'est pas meilleur là-dessus. Pour le voir et l'avoir vu et avoir fait des ateliers dans des écoles pilotes sur ces sujets-là en particulier, je suis tombée de ma chaise aussi à ce moment-là. Les jeunes collégiens et lycéens ne le savent pas. Et ils tombent de leur chaise quand on leur explique comment ça fonctionne. Donc oui, c'est une vérité. Hein. Nous, on a l'impression que tout le monde le sait. Mmh. Mais même Cambridge Analytica, tout le monde n'est pas au courant.
Mais à la limite, Cambridge Analytica, c'est compliqué. Tu sais, l'histoire, il faut expliquer comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence, etc. Le fait que Facebook a un profil qui liste vos intérêts et vos caractéristiques, c'est la base, tu vois. Et donc toi, tu confirmes que même en France, la plupart des gens ne savent pas, mais comment faire pour leur faire comprendre, pour leur expliquer, enfin, c'est tellement, j'en perds mes mots et ça arrive pas souvent, mais je suis je sais même plus quoi dire, quoi.
L'éducation numérique, c'est, ouais. C'est ma seule réponse.
Ouais. Donc, en gros, Coude et le rendez-vous tech. Voilà. Comme je le dis souvent, le rendez-vous tech obligatoire à écouter au moins une fois par mois dans le pays. Si quelqu'un a l'email d'Emmanuel Macron, ou mieux son numéro de téléphone, si vous pouvez me le transmettre de manière à ce que je lui soumette l'idée.
T'as pas son email Gmail ?
Ben oui, non mais c'est ça, moi je l'ai pas retrouvé, mais si vous pouviez me le transmettre, parce que finalement on est en période de grand débat, tout le monde peut proposer ses idées, cahier de doléances, tout ça, moi je pense que ça serait une proposition intéressante. En plus,
on va aller sur la plateforme du grand débat, on va l'ajouter.
Exactement, allez-y. oui, parce que moi je peux pas le faire, c'est un petit peu conflit d'intérêts. Encore que. Donc, comme je le disais, Tim Cook a parlé, a expliqué qu'il faudrait des lois pour protéger la vie privée et que ça devrait passer par des lois. Je ne sais plus si je l'ai mentionné quand on parlait tout à l'heure, mais Tim Cook défend cette idée. Bon, c'est un petit peu, là aussi, conflit d'intérêts parce que c'est le business model d'Apple, mais il n'empêche, il défend un petit peu l'idée d'une sorte de RGPD-like aux États-Unis. Il y a de plus en plus de voix qui se lèvent pour dire qu'on en a peut-être besoin, même aux États-Unis où ils n'aiment pas l'intervention du gouvernement. Donc, cette idée fait son chemin. WhatsApp a implémenté une limite dans le transfert de messages. Jusqu'à maintenant, c'était limité à 20 personnes et ils avaient implémenté en Inde une limite bien plus restrictive de 5 personnes. Donc, chaque message ne pouvait être transféré qu'à 5 personnes et ils l'ont maintenant implémenté. Ils l'avaient fait en juillet. Ils l'ont maintenant implémenté dans le monde entier. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, on y revient, hein, c'est vraiment le mal du siècle, ou en tout cas le mal de la décennie, ou le mal de ces 5 années, de la demi-décennie, c'est les fake news. Et WhatsApp était utilisé pour propager des informations qui étaient fausses et souvent dommageables, en Inde notamment, mais visiblement, ils se disent, on va limiter les dégâts partout dans le monde, et désormais, on ne peut plus transférer de messages qu'à 5 personnes à la fois. Et là, je me dis, même 5 personnes, parfois, on a légitimement le besoin de transférer à plus que 5. Et le problème des fake news est tellement important que on ne peut plus sur WhatsApp. Netflix a... je parlais du fait qu'ils voient toujours un petit peu plus loin que leur domination actuelle. Ils ont annoncé qu'ils ont 139 millions d'abonnés payants. sans compter les périodes d'essai gratuites. Donc 139 millions, c'est un chiffre intéressant. Et surtout, ils ont dit que pour eux, Fortnite était un plus gros concurrent que HBO. Bien sûr, HBO, l'autre grande chaîne où les séries sont de qualité. Et donc, ils pensent plus à Fortnite, le jeu vidéo très populaire en ce moment, que à HBO. Et ça m'a paru hyper intéressant, là encore, pour essayer de comprendre la manière dont Netflix et ces sociétés-là appréhendent leur environnement et leur situation. Ils regardent vraiment de manière un petit peu large. Et en fait, ils expliquent que, pour eux, la vraie concurrence, enfin, c'est tout ce qui attaque, entre guillemets, notre temps libre. Pas juste les autres services de streaming de vidéos. Et Fortnite, évidemment, est très populaire en ce moment. Donc, les jeunes qui ont du temps libre, ils vont peut-être se mettre devant Fortnite plutôt que devant Netflix. C'était une vision intéressante. Et du coup, ça me permet de te poser la question. Chez les jeunes que tu fréquentes, c'est plutôt Fortnite ou plutôt Netflix? Je ne sais pas si c'est les questions que tu poses, mais...
J'ai jamais posé la question. J'ai le sentiment, en tout cas, que, en tout cas, c'est les deux. Et que, par contre, c'est pas le reste.
Ah.
Effectivement, ils restent sur Fortnite et Netflix et ils vont plus aller, on le sait déjà, hein, sur la télé ou les autres typologies de loisirs. En tout cas, effectivement, c'est les deux géants, c'est Fortnite et Netflix.
Bon, ben voilà. Donc, c'est bien parce que. Moi, ça me fait me sentir un petit peu plus jeune, peut-être, parce que bon, c'est peut-être pas Fortnite, ok, mais c'est d'autres jeux vidéo et c'est Netflix et YouTube et tous ces trucs-là. Moi, comme je disais à l'épisode précédent, je regarde plus du tout la télé non plus. Donc, je suis un petit peu plus âgé, peut-être, que la moyenne des auditeurs, mais dans mon cœur, je suis quand même un jeune. On va dire ça comme ça. allez, une dernière petite news. Uber est en train de réfléchir à la mobilité, mais non plus des voitures, mais des petits scooters. Vous savez, les trottinettes électriques. Ils ont des offres d'emploi pour une équipe qu'ils appellent Micro Mobility Robotics, qui serait donc, dont le but serait de rendre mobile et autonome les trottinettes électriques, de manière à ce qu'elles puissent non seulement aller se charger toutes seules au point de recharge, mais aussi venir rejoindre les clients. C'est-à-dire que tu pourrais avoir une application où tu demandes, enfin, je ne sais plus qui ils ont acheté, c'était Bird, je crois. Tu appelles ta trottinette et elle vient jusqu'à toi au lieu que tu aies à marcher jusqu'à la trottinette. Bon, ça peut paraître anecdotique, mais ça serait quand même un service un pratique, utile, un petit peu futuriste, mais...
K2000.
La quoi, pardon?
K2000.
Ouais, c'est ça,
avec
exactement.
Avec ta montre, t'appelles Kit. Tu vas pouvoir faire la même chose. C'est pas futuriste, c'est très vieux comme concept, tu vois.
Tout à fait, tout à fait. Je crois que tu viens de te dater un petit peu toi aussi, hein,
vrai,
en faisant cette
désolée.
Référence. Mais oui, c'est K2000, sauf que c'est un petit peu moins classe, hein, c'est la trottinette. Mais bon, quand même. C'est K2000 des hipsters.
C'est ça.
Mais il n'empêche que c'est une vision intéressante. Je ne sais pas s'ils y arriveront, hein. C'est vraiment un tout début. Et il faudrait des systèmes de... Enfin, imaginez tous les nouveaux problèmes que ça va poser avec les caméras qui vont regarder pour analyser, pas rentrer dans les gens, pas se casser la gueule, etc. Mais c'est une vision intéressante. Imaginez que plein de choses deviennent autonomes et puissent se déplacer. Je ne sais pas, c'est une idée intéressante. Et puis aller se recharger tout seul, etc. Je ne sais pas quoi d'autre... pourrait, mais on
la
a déjà vu des
autonome pour emmener le bébé se promener tout seul.
Pas mal. Gaëlle, tu es une génie. Je pense que il faut que tu ailles immédiatement travailler chez Uber pour leur donner ce genre d'idée. Moi, je serais pour. Non, mais à la limite, la poussette autonome, peut-être qu'elle t'as pas besoin de la pousser, elle te suit ou elle est juste devant toi et t'as pas besoin. Comme ça, tu peux être sur ton téléphone. Tu pousses la poussette du bébé un petit peu plus de manière sécurisée, tu vois, c'est pour et si tu t'arrêtes, elle s'arrête. Donc bon, enlevez-moi ces idées de la tête, ça devient terrible. Et c'est donc le dernier sujet que nous voulions évoquer. C'est la fin de cet épisode. Merci Gaëlle d'avoir participé à l'émission. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet? On a parlé de Coude, bien sûr. Il y a ton compte Twitter. Qu'est-ce qu'on y trouve sur ces deux endroits de l'Internet?
Écoute, bah merci à toi Patrick. Écoute, on y retrouve bah justement, ça pourra répondre aux questions de Baptiste. On essaye aussi de donner des conseils sur où trouver des bonnes applis, des bons sites éducatifs. On essaie de donner des conseils sur l'usage des écrans. Et voilà, donc vous pouvez me trouver sur coud_fr sur Twitter ou sur notre page Facebook aussi, où on donne toutes ces infos.
Super. Et je mettrai le lien vers ton compte Twitter à toi dans les notes de l'émission. Je rappelle le nom du site que tu recommandais, je suis sûr qu'il y a des gens qui se posent la question, c'est commonsense.org et je le mettrai dans les notes de l'émission aussi si les gens veulent aller regarder ça. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez retrouver des photos du Winter Wonderland dans lequel je passe beaucoup de temps en ce moment. La campagne finlandaise, c'est vraiment très froid. Mais c'est aussi très très beau, donc vous pouvez avoir des photos de ça, et bien sûr, hein, mes réflexions diverses et variées sur la tech, le jeu vidéo, et bien d'autres choses, sur tous ces réseaux sociaux. Réflexions toujours posées, réfléchies, bon peut-être pas toujours, mais généralement j'espère posées et réfléchies. Je m'impose une limite de, comment dire, pas une limite, mais une discipline pour essayer de ne pas répondre de manière sanguine sur les réseaux sociaux pour en faire un lieu un petit peu plus sain, donc mesure, toujours, réflexion. Et bien sûr, vous pouvez mettre des commentaires sur l'article de l'épisode sur frenchspin.fr. Vous retrouvez donc les notes de l'émission et les commentaires des auditeurs qui sont toujours intéressants. Pour ceux qui ont accès au Slack parmi les Patriotes, on y passe du bon temps, évidemment. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre là-bas aussi. Et si vous voulez devenir Patriote, il y a beaucoup plus d'interactions ces derniers temps sur le Patreon. C'est un truc qui, comment dire, j'en fais un petit peu pour moi, en tout cas, une sorte d'oasis par rapport aux réseaux sociaux où ça devient un petit peu trop oppressant parfois. Et je passe du temps là-dessus. Donc, si vous voulez passer du temps avec moi, c'est un bon moyen de le faire. Et bien sûr, si vous voulez devenir Patriote, en plus du fait que c'est une oasis sympa, vous pouvez le faire pour soutenir l'émission, ce qui est quand même l'aspect essentiel de tout ça. On ne le fait pas forcément pour les récompenses, on le fait surtout parce que l'émission vous plaît, vous passez de bons moments, vous vous informez et c'est un outil utile pour vous. Et ben, c'est sur patreon.com/rdvtech, donc utile et agréable en même temps. C'est le but de ce Patreon, donc patreon.com/rdvtech. On vous remercie de nous avoir écoutés. Le prochain épisode sera donc un épisode spécial pour fêter les 10 ans de l'émission. Ouf. Ouais, 10 ans de Rendez-vous Tech, ça ne me rajeunit pas, mais ça ne vous rajeunit pas non plus, hein, ceux qui écoutent depuis le début. Et on se retrouve pour un épisode classique dans 2 semaines. Je vous remercie de nous avoir écoutés, je vous fais de grosses bises et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.